Bonjour, je suis Katia de Louis Média. Je suis aussi maman de deux jeunes enfants de 18 mois et de 5 ans. Comme beaucoup de parents, je me suis sentie très seule à l'arrivée de mon premier enfant. J'avais plein de questions tout le temps et beaucoup d'angoisse aussi. Comme beaucoup de parents, je veux toujours le meilleur pour mes enfants. C'est comme ça que j'ai redécouvert Evian, une eau née au cœur des Alpes, pure et naturelle et adaptée à l'hydratation des bébés. Alors quand on a cherché un partenaire pour soutenir ce podcast, c'est à Evian qu'on s'est naturellement adressé. Parce qu'Evian est une marque engagée comme allié des parents depuis plus de 50 ans. Un allié pour une parentalité vraie et décomplexée. Alors je leur ai envoyé un message et ils ont tout de suite répondu présent. C'est donc avec une certaine émotion que j'ai la joie d'introduire Evian comme sponsor de ce podcast. Evian soutient les recommandations de l'OMS pour la promotion de l'allaitement maternel pendant les 6 premiers mois. Je les remercie sincèrement. Bonne écoute.
En fait, il y a une image qu'on nous a toujours vendue en tant que futurs parents, c'est « ce sera le plus beau jour de notre vie ». Franchement, c'était le pire.
Comment on digère un accouchement qui n'a ressemblé en rien à l'image que l'on s'en était fait? Comment on compose avec un enfant de quelques jours, quelques mois dans les bras, quand la douleur et l'incompréhension sont encore trop vives? J'ai accouché le 16 mars 2021 à Paris. Je suis arrivée un lundi matin pour un déclenchement en deux étapes qui devait se dérouler sans encombre. Je ne devais surtout pas oublier mon iPad pour regarder des séries en attendant que le travail se fasse. J'y suis allée la fleur au fusil. Ça s'est mal passé. Ma péridurale m'a lâchée et en un quart de seconde, c'est devenu la guerre. Forceps, épisio, cris de truie. Mon accouchement s'est transformé en boucherie-charcuterie. Dans les jours qui ont suivi, je me souviens d'un immense sentiment de colère. Je me refaisais la poussée en boucle. Pourquoi ma péridurale n'avait pas fonctionné? J'ai raconté à mon entourage, mais personne autour de moi ne sait vraiment comment fonctionne une péridurale, ce qu'est un ballonnet de déclenchement, et à quoi ont ressemblé ces 18 minutes d'effort expulsif.
C'est dur d'accoucher? Ça fait mal? C'est-à-dire, ça peut être long, oui, et tu peux souffrir.
Oh ben non, alors non.
Et à la maternité où j'avais donné naissance à mon fils, personne, malgré mes demandes répétées, n'a pu m'expliquer ce qui s'était passé. Les médecins étaient désolés que j'ai souffert, mais je n'ai jamais compris pourquoi j'avais souffert. À la maternité Jeanne de Flandre, à Lille, il existe un protocole imaginé pour les femmes qui ressassent, qui n'ont pas eu les réponses qu'elles attendaient, qui souffrent encore, parfois des années après l'accouchement. À Jeanne de Flandre, on raconte bien sûr selon son vécu de femme, mais on revient sur ce qu'il s'est passé, heure par heure, contraction par contraction. On compte les bips du monitoring et les allées et venues du personnel soignant. Ça permet de se réapproprier son histoire, de confronter son ressenti au réel.
J'arrive à la consultation de Charles Garabédian.
D'accord, donc c'est en consultation gynéco.
Il m'a dit salle 4 aux consultations périnatales.
Périnatales, ah bah c'est juste derrière alors.
Ok.
Je vous demandais derrière.
D'accord, merci.
Mais ça permet surtout de poser des questions.
Bonne journée.
Dans mon cas, j'aurais par exemple pu demander à 22h15, quelle dose de péridurale vous m'avez réinjectée? Pourquoi vous n'en avez pas mis plus? Pourquoi vous n'avez pas su voir que je sous-évaluais ma douleur? Ça n'aurait probablement pas rendu mon souvenir plus doux, mais j'aurais peut-être fait la paix avec cet événement plus tôt.
Je suis le professeur Charles Garabédian, je suis gynécologue obstétricien au CHU de Lille.
Donc moi je suis Catherine Duverger, je suis sage-femme à Jeanne de Flandre depuis l'ouverture puisque j'ai été diplômée en 95.
Victoire Vénard, je suis psychiatre ici à Jeanne de Flandre sur la maternité, principalement référente en anténatale.
Là.
Bonjour.
Bonjour, ça va?
L'enfer, hein?
Merci. Bah, c'est... Ouais, un petit peu, mais c'est pas grave.
Parce que moi, j'ai eu en vélo, en plus, donc...
Vous êtes venu en vélo sous cette pluie?
Oui.
Je suis allée à Lille, où il pleut, évidemment, pour vous faire découvrir cette maternité où l'on peut revivre son accouchement par les mots, pour le comprendre et mieux l'accepter.
Ah ouais, bien sûr.
Vous allez entendre les soignants, mais surtout le récit de deux femmes, Atawiya et Sarah, pour comprendre à quoi ressemblent ces consultations postpartum. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
Fête des Gosses.
Fête des Gosses.
Fête des Gosses.
On accouche.
Donc ici, à Jeanne de Flandre, on peut revenir 3 mois, 2 ans, et même 20 ans après son accouchement pour essayer de trouver des réponses. Celui qui en est à l'initiative, c'est le professeur Charles Garabédian.
Bonjour. Excusez-moi, hein, entre le temps de se sécher et puis le temps que...
Merci.
Vous êtes toujours OK pour que Madame Revol soit là ?
Pas de soucis.
Bon, parfait.
Aujourd'hui, bien sûr, comme toutes les mamans, j'aime mon fils, je suis très heureuse qu'il aille bien et qu'on s'en sorte très bien, tout ça. Mais c'est ce qui a suivi qui était beau, mais c'était pas ce moment, en fait. Et je me rappellerai toujours du moment où on m'a posé mon fils, moi, juste après l'accouchement, où j'avais qu'une envie, c'était qu'on me le retire pour que je puisse fermer les yeux et dormir. J'étais tellement épuisée et tellement fatiguée de 3 jours de marathon que je me suis dit, c'est bon, enfin là... J'ai juste besoin de dormir et de manger, en fait.
La première fois que Sarah a mis les pieds à Jeanne de Flandre, c'était il y a 1 an, pour accoucher de son premier enfant. La grossesse était simple, jusqu'à ce qu'elle apprenne que son père souffrait d'un cancer et que, selon ses mots, son bébé remonte.
J'ai été emmenée en salle de naissance à 7h du matin, un peu sans qu'on m'explique... En fait, la veille au lendemain, on ne savait pas trop comment ça allait avancer, puisque les contractions ne faisaient pas effet, en fait.
À 39 semaines, elle a été déclenchée. Ça a duré 3 jours.
Donc on descend à 7h du matin, en salle de naissance, et là, il y a à peu près 1 heure d'attente pour poser la péridurale, et de là, en gros, j'accouche de mon fils le lendemain à 1h38. Donc c'était un dimanche. J'accouchais le lundi à 1h38. Je me suis sentie très seule. J'ai eu l'impression que les équipes de l'hôpital étaient plutôt absentes ce jour-là, en tout cas pour moi. J'ai pas eu l'impression que la péridurale a été très bien suivie, puisque j'ai eu des grosses douleurs à un moment donné. En fait, les équipes s'enchaînaient aussi, donc ils avaient du mal à se relayer les informations. Et on réessayait les mêmes choses, ça redéclenchait des douleurs atroces. Et en fait, à un moment donné, je ressentais tout. J'ai fini en fièvre, enfin, je vomissais. Enfin, c'était juste, bébé était en tachycardie, ça se passait pas bien. On m'explique que sur la fin, on peut me proposer éventuellement une césarienne d'urgence. Je le prends super mal parce que ça fait 3 jours que je suis là et qu'on m'a assuré que justement c'était pour éviter ce genre de situation. Donc non, hors de question, je vais sortir bébé naturellement. Et on me propose du coup de pousser pendant 30 minutes et voir si là il y a possibilité de m'aider en fait, parce qu'il n'était vraiment pas encore assez bien descendu. Donc là je pousse 30 minutes, on m'explique qu'il faut s'arrêter là et qu'on va utiliser le forceps en fait. De là, le forceps est utilisé pour sortir mon fils. In extremis en fait, on évite la césarienne.
En regardant un petit peu au niveau horaire et tout ça, parce que vous me parliez de la péridurale au bout de... au niveau horaire, je reprends votre ancien dossier. Hop. Je le tourne vers vous. Donc en fait, vous êtes arrivé en salle, oui, c'est ça, vers à peu près, je pense, 7h30, 8h30, avec la pose de la péridurale à ce niveau-là. On voit qu'au tout début, ça a été efficace, puis que... Rapidement, en fait, vous avez eu à nouveau des douleurs, puisque on voit que quand on vous demande votre douleur, vous étiez assise sur 7. Et qu'à ce moment-là, donc, on a appelé l'infirmier anesthésiste, hein, c'est ça, IAD, voilà, pour qu'il puisse gérer. On voit que ce qui vous a fait, ça vous a permis de vous soulager pendant plusieurs heures. Puis, à nouveau, vous avez eu des douleurs. Et vous voyez, on voit qu'à ce moment-là, on rappelle l'infirmier anesthésiste qui réinjecte, ça vous soulage, sauf sur la toute fin du travail. Voilà, où c'était horrible. En fait, c'est marqué que vous aviez des douleurs à ce moment-là à 10. Qu'on rappelle donc l'infirmier anesthésiste à plusieurs reprises pour qu'ils essayent de corriger un petit peu. Et on voit qu'à la toute fin où vous êtes un petit peu mieux soulagé. Et donc après, là, on voit que le col, donc au départ, comme sur un déclenchement, il reste un petit peu identique pendant les 3 premières heures. Et puis, ça finit par s'ouvrir. À peu près un rythme tout à fait habituel, on va dire, d'à peu près 1 cm par heure. avant que sur la fin, il reste à peu près 3 heures, en fait, petit peu haut, voilà, au même stan. Ouais. Je pense que c'est là où s'est posée la question, évidemment, j'étais pas là, mais c'est là où s'est posée la question entre faire une césarienne ou essayer de vous faire pousser pour vous faire accoucher par les voies naturelles. Voilà, puis ensuite, donc la naissance de
Zayn.
Zayn, hein, ouais. Donc il faisait 3,875 kg, ce qui est un poids généreux à 39 semaines d'aménorrhée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à...
Après l'accouchement, Sarah souffre de complications. Elle a mal au niveau des hanches et découvre qu'elle a probablement eu une déchirure responsable d'incontinence anale, plutôt handicapant. Elle estime ne pas avoir été écoutée par les équipes soignantes, pas entendue dans sa douleur.
C'est des choses, c'est plein de petites choses comme ça en fait. J'ai mal, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant en fait, je vous dis vraiment que j'ai mal, j'arrive pas à soulever mon bassin. J'étais sous tramadol pendant 5 jours, j'arrivais pas à me lever sans tramadol, je rentrais chez moi, j'arrivais pas à me retenir. Et même au moment où je suis venue à l'hôpital pour rencontrer la gynéco pour voir ce qui devait se passer par rapport à mon incontinence, elle m'explique que. Donc en fait, j'ai une vidéo de mon accouchement, elle me demande si j'ai filmé, enfin voilà, et elle se voit dessus. Donc on la regarde ensemble, enfin elle la regarde parce que moi je suis incapable de la regarder. Et elle me dit, bah justement, moi j'étais là ce soir-là et pour tout vous dire, en tout cas ça m'a pas marqué en fait. Pour moi c'était pas un accouchement compliqué. C'est dur d'entendre ça en fait. C'est dur d'entendre ça en tant que maman quand on a très mal vécu les choses et qu'on se dit que oui, ok, je suis pas passée, j'ai pas failli passer, mais c'est pas pour autant que ça n'a pas été hyper compliqué pour nous, pour mon mari et pour moi et pour notre fils en fait, pour tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est juste le manque de considération de se dire, nous, on n'est pas dans ce milieu, en fait. On ne voit pas des horreurs toute la journée. En se disant, bah là, on a évité le pire, donc ça va. Pour nous, c'est une première fois. C'est juste hyper compliqué à gérer. En fait, on avait dit, oui, mais tu verras, quand tu vas être à l'hôpital, tu n'auras pas envie d'entrer chez toi, en fait. Tu auras super peur de te retrouver seule avec ton enfant. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de quitter Jeanne de Flandre, en fait. C'était vraiment pas un séjour où je me suis sentie, guidée. En fait, enveloppée dans les premiers moments, un peu, voilà.
Charles Garabédian m'explique le sens de ces consultations mises en place et ce que ça permet pour les patientes qui viennent faire le récit de leur accouchement.
On a vraiment mis en place ce système-là qui marche très bien puisque aujourd'hui, que ce soit des femmes qui sont suivies en ville ou des femmes qui sont suivies chez nous, dès qu'on sent que le vécu a été difficile de l'accouchement précédent ou de la grossesse précédente, eh bien, on essaye de les inclure un peu dans ce parcours qui peut être une première consultation avec un médecin pour débriefer de ce qui s'est passé, des cours de prépa adaptés, voire revivre son accouchement d'avant, un soutien psychologique et voire parfois aussi, on voit qu'il y a un vrai stress post-traumatique et un suivi psychiatrique derrière. Et c'est vrai que de pouvoir en parler, d'avoir eu le temps, c'est une consultation qui est vraiment dédiée à ça, qui dure 40 minutes. Il n'y a pas d'examen clinique, il n'y a rien du tout. C'est vraiment dédié à un échange. Et ça, je pense que rien que ce point-là, déjà, est très important. Et puis après, on les encourage déjà, mais toutes nos patientes, mais à écrire un projet de naissance. Et pour nous, je pense que c'est super important qu'elles puissent mettre aussi par écrit tout le vécu qu'elles ont eu. Et que toutes les personnes qui vont les prendre en charge ensuite, quand elles vont venir pour leur deuxième séjour chez nous, eh bien soient un peu au courant de ce qui s'est passé la première fois.
Lorsque l'on a eu un premier accouchement traumatique, le projet de naissance du suivant est une des façons de se réapproprier le premier, de reprendre un peu de pouvoir.
C'est dégueulasse. Ouais, vraiment, c'est dégueulasse.
À Jeanne de Flandre, on propose également aux femmes comme Sarah de rencontrer Catherine Duverger, une sage-femme qui utilise la sophrologie et l'hypnose pour tenter de conjurer les mauvaises expériences, et notamment les césariennes d'urgence souvent mal vécues par les patientes. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait commencé à utiliser ces techniques pour aider les jeunes mères.
Je me rendais bien compte qu'il y avait parfois des mamans qui voulaient fuir la maternité, vite partir. Et en fait, souvent, c'était dans un contexte justement de vécu un peu difficile pour elles. En fait, une césarienne en urgence, des choses assez brutales et fortes. Et je leur proposais de revivre donc leur accouchement d'une façon différente. Puisque quand on est dans cet état un peu de conscience modifiée, eh bien, on arrive à refaire le schéma, le déroulement du vécu, mais d'une façon un petit peu externe. Alors déjà aussi, je leur faisais récupérer, car en fait, je me rendais compte que ces patientes, elles étaient exténuées. En fait, quand elles ont vécu cet événement, eh bien, c'est tout simplement une peur immense pour elles, pour leur bébé, quel que soit le contexte, parce qu'il y a eu un saignement, parce que voilà, c'est même souvent des femmes jeunes aussi, il faut pas oublier, qui n'ont jamais été opérées, donc déjà rien que ça, c'est déjà un peu stressant de passer au bloc opératoire. Et là, pour le coup, en fait, elles le vivent et elles étaient actrices et brutalement, bien, en fait, elles ne peuvent plus rien faire pour aider leur, elles ont plus la juste maîtrise.
Selon elle, la peur crée un état de sidération chez les patientes, et donc parfois des blackouts. Son but, c'est de dégeler cet état de sidération, de mettre des mots sur leur vécu, verbaliser que leur peur était légitime et qu'elles s'en sont sorties, pour leur permettre de passer à autre chose. Lorsqu'elle propose aux patientes de revivre leur accouchement, la sage-femme les met dans ce qu'elle appelle un état de sophrohypnose pour provoquer dans un premier temps une détente corporelle.
Et puis après, je vais leur proposer, sous forme d'image, enfin, en tout cas dans ce contexte-là, de leur refaire vivre la traversée qui va leur faire devenir passer de l'état de femme à l'état de mère. Et souvent, ben, j'avais prenais l'image symbolique d'un bateau. Le bateau, il va passer donc d'une rive à une autre pour la faire devenir mère. Et puis, ben, comme dans la vie, parfois, il y a des tempêtes. Donc je prenais beaucoup l'image de la tempête qui déchire la voile. La voile se recoue, donc c'est aussi cette symbolique de cicatrisation, etc. Et c'est surtout en fait que même si elles ont pu être chahutées, même si elles ont pu être désorientées, elles ont quand même été actrices dans tous les moments en fait de ces étapes. Elles ont été actrices et elles ont réussi leur but.
Ce jour-là, à Lille, j'assiste à une deuxième consultation, celle d'Ataouya. Elle a accouché au centre hospitalier de Tourcoing, à une vingtaine de kilomètres de Jeanne de Flandre. C'est de là qu'on l'a transférée, sans son bébé, dans le service du professeur Garabédian, après un thrombus vaginal, c'est-à-dire un caillot qui se forme au niveau du vagin et qui a provoqué une hémorragie. 20 kilomètres, c'est long quand on est seul, allongé dans une ambulance. Son mari aussi s'est retrouvé seul, son petit bébé dans les bras, sans avoir aucune information sur l'état de santé de sa femme. Pour éviter une deuxième séparation, son prochain accouchement est prévu ici, à Jeanne de Flandre. Et ce jour-là, ils sont deux, ce qui est déjà inhabituel, à assister à la consultation. Enfin trois. Ils s'excusent, ils ont dû venir avec leur fille, faute de solution de garde.
En fait, à l'accouchement, tout se passait bien. J'ai commencé à pousser. Le bébé ne descendait pas, mais je continuais à pousser. Et il y a un moment où c'était compliqué. Ils m'ont dit, ça fait au moins 20 minutes que tu pousses. On va appeler un médecin. Donc elle vient, elle commence la consultation, elle fait une écho et elle me dit sa tête, elle est tournée. Elle ne regarde pas en haut, je pense. Il y avait son oreille sur le côté et... Ils m'ont dit, c'est pour ça, en fait, on va pousser encore une ou deux fois et après, on va passer aux césariennes parce que ça ne sert à rien. Le rythme cardiaque de la petite, il commençait aussi, je pense, à avoir des problèmes et tout. Et elle a utilisé une première ventouse et elle l'a changée direct après, je ne sais pas pourquoi. Pas d'explication, tout dans le flou. Ils me demandent de pousser, mais on n'a pas d'information. Et d'un coup, on voit des personnes rentrer, en fait. On passe de 2 à 9, toujours sans explication. La petite, elle sort et la pose sur moi. Il ne la calcule même pas. Donc, c'est moi qui a commencé à frotter son dos pour le premier cri. Et après, tout le monde est focalisé en bas. Mais pas d'information, rien. Et c'est surtout mon mari qui a tout vu, qui a commencé à poser des questions. Moi, j'étais avec la petite, je ne me rendais pas compte avec la péridurale et tout, je ne me rendais pas compte de ce qui s'est passé.
excusez-moi, c'est un moment où on doit rester ensemble, on sait jamais, le pire il peut arriver. Et après, même moi, j'ai vécu une expérience traumatisante, parce que moi, j'ai tout vu. J'ai été un peu curieux. On déconseille de trop regarder de temps en temps. Mais moi, ce moment magique, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est que la petite, bah, finalement, j'ai vu qu'elle est sortie. Mais dès que j'ai vu qu'elle est sortie, j'ai même pas eu le temps d'apprécier ce moment, parce que j'ai vu tout le monde rentrer, j'ai vu de la panique, sans vouloir nous le montrer, bien sûr. Je dis pas qu'ils étaient affolés devant nous, mais on le voyait, un truc à l'époque, quoi. Et je voyais tout le sang qui sortait et tout ça, je voyais qu'ils insistaient sur les compresses, donc je voyais qu'il y avait des hémorragies, ma femme qui était toute blanche, qui commençait à trembler, avec la petite sur elle, et j'ai jamais vu blanche comme ça depuis que... Donc moi, honnêtement, pour moi, ma femme, elle partait. Je me suis dit, d'un moment magique, je me suis dit, ça y est, je vais me retrouver tout seul avec ma petite fille.
Bah, en fait, c'était surtout le manque d'informations qu'on n'a pas eues. Et même quand ils m'ont transféré ici, ils m'ont dit, ils ont tout sur place... S'il y a un problème ou quoi, c'est mieux à Lille, mais pas d'informations. On ne peut pas vous dire plus. C'est ça, en fait, qu'il y a... Et c'est un médecin qui nous dit ça. C'est même pas une sage-femme, quoi. C'est un médecin qui nous dit ça. Donc, nous...
Ouais, pour me rassurer, à la fin, je dis, ça va aller, ma femme, quand elle est partie et tout. Elle me dit, je ne peux pas vous en donner plus. Si elle est partie à Lille, il faudra voir avec Lille. Je ne dis pas de me dire que ça va aller à 100%, mais quand même me rassurer, m'expliquer un peu ce qui s'est passé et... Je me suis dit, ah ouais, là, s'ils ne me disent pas, c'est qu'ils ne veulent pas s'avancer, c'est que c'est très, très grave ce qui est en train de se passer.
Moi, en fait, de 11h du soir jusqu'à 4h du matin, je suis restée au bloc, allongée sur la table, en train d'attendre ce qui va se passer après, en fait, pour contrôler. Et là aussi, en fait, j'étais toute seule. Et à chaque fois, ils me disaient, on va revenir. Et il se passait une heure et demie, il y a une personne qui revient. Et c'était, franchement, c'était lent. Après un accouchement, la fatigue et tout. Je ne sais même pas ma fille comment elle va derrière. Mais c'était compliqué.
Tu n'as pas savouré ton moment.
Non.
Après, je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, cette séparation avec votre conjoint, avec votre bébé.
Bah en fait, moi, tant que ma fille à Dron, elle était sur moi, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait autour. C'est une fois au bloc, quand j'étais toute seule, tout est revenu en fait. J'étais toute seule, je pensais là, je disais, je suis là, c'est juste surveillance, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc de grave. Et je pensais à ma fille et c'est la même chose. Je me suis dit, je peux partir et laisser ma fille alors qu'elle vient juste de naître. C'était ça en fait le problème. Ouais.
Tiens. Après, ça a fait un traumatisme par rapport pour une deuxième grossesse. Quoi. Moi, au début, je ne voulais plus une deuxième. Au début, j'ai dit, moi, c'est bon, première expérience, ça s'est bien passé au final, mais revivre tout ce qu'on a vécu, c'était un peu stressant, quoi. Et même, j'ai dit, ben, après qu'on a rediscuté entre nous d'avoir un deuxième ou une deuxième, maintenant, c'est une deuxième qu'on va avoir. Alors, au début, j'ai dit, moi, je te le dis, c'est césarienne. Direct, j'ai dit, moi, je ne veux plus, par voix basse comme ça, refaire le truc. Et après, on en a discuté, mais après, finalement, elle veut quand même repartir sur un accouchement là.
Et alors là, du coup, maintenant vous êtes à 30 semaines, est-ce que vous avez un peu imaginé la fin de la grossesse, l'accouchement, comment vous imaginez ça? Je vois sourire derrière votre masque.
Bah, j'essaie de pas penser en fait, on verra le jour J, mais là j'essaie de pas penser.
Bah, toi, ça te fait pas peur de repasser l'accouchement par voie basse?
Non.
Comme Ataouya, Sarah est enceinte de son deuxième enfant. Elle accouche à nouveau à Jeanne de Flandre car c'est une maternité de niveau 3, ce qui lui assure de ne pas être séparée de son bébé en cas de problème. Et pour elle, c'est le plus important. Elle a peur car elle fait du diabète gestationnel et redoute d'avoir à nouveau à subir un déclenchement. Son bébé est déjà gros, c'est donc un scénario probable, tout comme la césarienne. La consultation avec le professeur Garabédian sert aussi à ça, mieux préparer un second accouchement quand le premier a été traumatique. On refait l'histoire pour comprendre et clarifier ses attentes, ses priorités. Anticiper les potentielles difficultés d'un deuxième accouchement. Être pleinement sujet de ce moment.
Si déclenchement il y a une seconde fois, ce que je ne voudrais pas, est-ce qu'on peut éviter le ballonnet? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Est-ce qu'il y a des déclenchements différents? Parce que par exemple le ballonnet, je sais que c'est impossible aujourd'hui de repasser par là. Est-ce que la césarienne c'est vraiment quelque chose qui est conseillé? J'en sais rien, c'est aussi pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, je pense, c'est que j'ai aucune idée finalement de... On entend tout et son contraire. Donc,
Après, moi, d'abord, ce que je dis toujours, c'est que c'est votre décision. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous me dites « je souhaite une césarienne », vis-à-vis de ce que vous avez vécu avant, ça, je veux dire, il n'y a aucun souci. On organise ça, c'est 15 jours avant le terme. Et après, on se débrouille pour que, éventuellement, ce soit moi qui puisse vous la réaliser, comme on s'est déjà rencontré et que je connais votre histoire.
D'accord.
Mais si avant, vous vous mettez en travail spontané, on peut tout à fait rediscuter. Oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous me dites « je souhaite une césarienne » que même le jour où vous arrivez... le jour où vous arrivez à la maternité, on dit « ah non, vous avez dit césarienne, c'est tout, c'est césarienne. »
D'accord. Ça me laisse, disons, le temps de... Enfin, après, le but n'étant pas que je me décide en dernière minute, mais parce que justement, on est là pour éviter que ce soit quelque chose qui soit fait en dernière minute. Mais ça me laisse le temps de la réflexion.
Ouais.
Sarah a rédigé un projet de naissance qui sera communiqué aux équipes le jour de son arrivée.
Du coup, donc, je me permets de reprendre un petit peu ce que vous avez écrit. Donc, sur la première partie, vous me disiez que donc, vous souhaitiez une playlist de musique, et ça tombe bien puisqu'on a des enceintes où on peut écouter sa propre musique. Que vous souhaitiez la péridurale, l'accompagnement de votre conjoint et donc les différentes possibilités qui s'offrent à vous avant une décision urgente ou même non urgente, puisque finalement, même aujourd'hui, on en discute ensemble et que la santé de votre bébé passe avant la vôtre. Et puis, vous mettiez le petit point pas de ballonnet dont on en discutait.
Ouais, oui.
Vous souhaitez une personne très expérimentée, donc un senior, et si forceps. Lourdes complications suite au forceps, ok. Donc ça, c'est important, puisque même si on échange aujourd'hui, ce ne sera pas moi forcément le jour de votre accouchement, même si c'est mieux si vous ne me voyez pas, parce que ce sera un accouchement...
qui se passe bien.
Voilà. Lui, envisage comment, là, cette naissance?
Lui, c'est le conjoint de Sarah.
Mais grossesse, alors, de vous voir stressé comme ça.
J'ai l'impression qu'il n'envisage pas trop grand-chose. On essaie de se rassurer, parce qu'on entend plein d'histoires positives sur le deuxième enfant qui arrive en 2 heures ou en 4 heures, où voilà, tout se passe très bien, et je me dis super, ce serait super. Après, là, aujourd'hui, on réalise des choses, c'est... Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, on parlait du fait que sur le postpartum, j'ai dû passer par une dépression sans me rendre compte, en fait.
Qu'est-ce que j'allais vous demander?
Parce que je me disais, mais là, je vais quand même bien mieux.
Ouais.
Mon fils a 14 mois passé. On n'en parle pas trop entre nous non plus, parce que je pense qu'il avait peur de me blesser. Et du coup, je lui dis, mais est-ce que tu penses que, parce qu'on entend tellement de témoignages aujourd'hui, est-ce que tu penses que moi je suis passée par là? Il me dit, mais complètement.
Quand la consultation du professeur Garabédian ne suffit pas, quand la sophrologie ne suffit pas, quand il y a des cauchemars, des pleurs, des troubles de l'humeur, quand ce qui était un mauvais souvenir du passé squatte le présent un peu trop longtemps, les patientes sont orientées vers Victoire Bénard, la psychiatre de la maternité.
Donc je suis des patientes pendant leur grossesse et après en postpartum immédiat lorsqu'elles ont accouché dans les quelques mois après leur accouchement. Ce qui est important, c'est le vécu. Donc c'est comment ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont senti comme odeur, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et souvent on dit « j'ai vu le regard, la peur » quand on m'a dit que c'était une césarienne en urgence. Et quand on voit l'autre parent qui dit « moi j'ai vu le bébé sortir bleu, ma femme qui allait mourir ». Enfin voilà, on voit le vécu. Et on reprend tout ça, on écrit ou on reprend ensemble pour voir quelles émotions ils mettent sur ce qui s'est passé. En fait, on peut juste se voir justement pour prévenir la dépression postnatale, parce que la dépression postnatale est quelque chose de très douloureux pour la maman, pour l'entourage, pour le bébé. Et donc, on essaye d'anticiper. Et donc, si on sait qu'il y a eu un accouchement traumatisant et que là, il y a une nouvelle grossesse, eh ben, ça permet d'anticiper et de prendre en charge précocement le couple et la maman et le bébé. En effet, s'il y a eu des violences avant, on sait qu'elles sont plus à risque de revivre ça pendant leur accouchement ou après.
Ah oui, c'est-à-dire que le moment de l'accouchement peut cristalliser des blessures qui ne s'étaient pas forcément exprimées et ça peut, entre guillemets, dégénérer à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention et qu'on aime bien, moi j'aime bien les voir avant. Comme ça, je peux préparer ça, je peux préparer les équipes, les sages-femmes, on peut anticiper au niveau des unités, au niveau de l'équipe soignante pour que tout se passe bien pour tout le monde.
J'ai reçu un mail hier. Au moment où je boucle cet épisode, le professeur Garabédian m'écrit pour me dire que Sarah vient d'accoucher de son deuxième enfant, dans les conditions dont elle rêvait, et que ça l'a réconciliée avec l'accouchement. Est-ce que c'est parce qu'elle est revenue sur son traumatisme de la naissance de son premier enfant? Est-ce que c'est parce que c'est un deuxième? Est-ce que c'est parce qu'elle était mieux préparée? Sûrement un peu de tout ça, et un peu de chance aussi. Ce que j'ai retenu, moi, de cette journée à Lille, c'est qu'on peut tout rediscuter, changer de programme. Prévoir pendant des mois un accouchement naturel et décider que non, on veut une péridurale. Accepter un déclenchement et finalement dire non. Éventuellement demander une césarienne si l'on estime que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Le protocole mis en place à Lille est rare en France, mais ce qui est important, c'est que vous avez 1. Le droit de vous plaindre et 2. Le droit de demander des comptes. Rien ne vous empêche de retourner sur les lieux de votre accouchement et de refaire l'histoire, de rouvrir le dossier, de demander à avoir accès au déroulé précis de cette journée. Peut-être qu'on vous accueillera les bras ouverts, ou peut-être qu'on vous répondra qu'on est sous l'eau, alors vraiment vos petits problèmes. Vous pouvez aussi écrire. Couchez votre histoire d'accouchement sur le papier et décortiquez les sensations que vous avez ressenties. C'est même quelque chose que vous pouvez faire avec le coparent. J'ai une amie qui, à chaque fois que son mari évoque la possibilité d'avoir un autre enfant, négocie. Elle dit « Voilà ce qu'un accouchement fait à mon corps, c'est un énorme sacrifice. Voilà ce que je veux en échange. Voilà comment je veux que ça se passe cette fois-ci. Et voilà ce que j'attends de toi. » Et je pense qu'elle a raison. J'aimerais qu'on arrête de dire que parce qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un accouchement, ça n'est pas une histoire qui mérite qu'on la prenne au sérieux.
Très drôle.
Je veux dire...
Vous êtes sérieux ?
Très au sérieux.
Ah, ça, pour ça, ça ne rigole pas, hein.
Je suis Marine Revol, et vous venez d'écouter Fête des Gosses au CHU de Lille. J'espère que ça vous a plu, et que vous aussi, vous aurez la possibilité de réexaminer votre propre histoire. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous vos questions et vos remarques à hello@louismedia.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Media. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine.
J'ai côtoyé la mort tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte en France. Mais on a vécu avec le bruit de la guerre d'une façon quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que... ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur. Je crois qu'on ne dormait jamais.
Je suis Anaë Bosser, et dans Ma Tonkinoise, je tire le fil de mon histoire familiale, de Saïgon en 1954 à Marseille en 2024.
Mais ce qui me frappe en ce qui concerne la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli.
Découvrez Ma Tonkinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.